Salut tout le monde, bienvenue à Angle Mort. Aujourd'hui, je vous parle du gala des Oliviers, la naissance de ça, les coulisses. Et je vous rappelle que je serai de retour enfin en spectacle, parce que j'avais commencé cette série-là au mois d'août, à la scène Le Bourgneuf à Québec, salle fantastique. 50 billets seulement à vendre. MarcBollard.com, section spectacle, pour acheter vos billets, qui sont sur le point de vente, mais passez par mon site. Et puis, c'est donc le 16 avril, un vendredi 19h. Donc, ça va être super. Premier arrivé, premier servi, parce qu'il y a juste 50 billets. Le gala des Oliviers, bon, ça existe depuis une vingtaine d'années. Je n'ai pas la date sous les yeux, mais moi, j'étais très actif à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai déjà été sur le conseil d'administration de l'APIH, l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour. La personne qui a lancé ça, c'est un gars qui s'appelle Stéphane Ferland. Stéphane Ferland était le bras droit de Pierre Gravel, qui encore aujourd'hui est une grosse agence de booking, qui est à Granby, qui a fait la pluie puis le beau temps. C'était le gérant d'André-Philippe Gagnon, par exemple. Et son bras droit était Stéphane Ferland. Puis Stéphane Ferland, à un moment donné, est parti de la boîte pour partir sa propre boîte qui s'appelle Octan avec Michel Barrette et, je crois, Peter McLeod. Donc, il travaillait pas comme gérant. Lui, il était agent, booker. La différence, c'est que il y a deux circuits pour un humoriste, pour des artistes en général, mais surtout les humoristes, il y a deux circuits. Il y a un circuit public où tu vends des billets dans des salles de spectacle, puis il y a un circuit privé, c'est-à-dire quand tu fais des événements privés. Bon, par exemple, IBM fait un congrès, pendant 3 jours, tout le monde est à l'hôtel dans une ville X, et puis à la fin, il y a un souper, puis il y a souvent un spectacle. Habituellement, c'est un spectacle d'humour, mais quand c'est bilingue, évidemment, l'humour est dans une langue particulière, ben des fois, ils vont engager un chanteur, whatever, bref, ça dépend. Puis c'était un gros marché pour les humoristes, ça l'est beaucoup moins. Pendant la pandémie, croyez-le ou non, il y a eu beaucoup de Zoom corporatifs, moi j'en ai fait. Puis c'est payant, puis tu restes chez vous, ça fait que c'est assez spécial, ça va-tu rester, je sais pas. Il y a des gars comme Rachid Badouri, je sais qu'ils ont fait beaucoup de prestations de même. Ils ont fait des gros mois. Et puis, ça va-tu continuer? Je sais pas, parce que ça reste que pour l'humoriste, c'est plate. T'es tout seul chez vous, tu parles avec du monde dans des petits carrés, c'est pas la même affaire. Bref, Stéphane Ferland, donc, quitte Gravel. Alors, évidemment, chacun a sa version. Pierre, lui, il l'a pris comme une traîtrise, parce que Stéphane Ferland était son bras droit... son ami, son tout ce que vous voulez. Puis moi, ben écoute, les gens en vie ont le droit de partir de leur bar. Moi, j'ai fait la même chose à Juste pour rire. Je suis parti comme gérant avec Cabana. Puis après ça, Anctil et Morancy ont suivi. Puis ça a été mon histoire. Là, les 12 premières années, quand je suis sorti de l'université, j'ai été gérant d'artiste. Et d'ailleurs, l'industrie de l'humour, c'est littéralement des mouvements de gérants. Il faut bien comprendre ça. Comment l'industrie de l'humour s'est montée au fil des 25-30 dernières années, c'est des mouvements de gérants. C'est moi qui est parti de Juste pour rire, qui a créé ma boîte dans laquelle il y a eu Cavana, Anctil, Morancy, Maxime Martin, Martin Petit, Sylvain Larocque. Il y en a eu, là. Moi, j'avais un associé, puis on apprenait Laurent Paquin à un moment donné via... Écoute, plein d'humoristes sont venus de la boîte que moi, j'ai créée. Après ça, Ferland a eu Lise Dion, Barrette, McLeod. Quand Jean-Michel est parti de chez nous, il est allé là. Dominique et Martin, je veux dire, il y en avait une trolley. Ça fait que tu vois, c'était vraiment ça. C'est souvent le seul qui est comme parti un peu sans quitter nulle part, c'est Faneuf. Le groupe Faneuf a été repris par son fils Benjamin, puis lui maintenant, il fait François Bellefeuille, Louis-José Houde, etc. Et ça depuis longtemps. Puis un autre départ qui a créé quand même une figure importante dans la business, c'est le départ de François Roson, de son frère Gilbert. Donc, François Roson est parti début des années 2000. Il y avait eu tout le scandale, là, toute l'affaire que Gilbert, au manoir Rouville, avec Yvon Deschamps, puis là, il avait été accusé, puis finalement, le procès était tombé, puis blablabla. Puis son frère avait fait comme gars, moi j'en ai par-dessus le casque, puis il est parti. Il est parti avec Courtemanche et Lemire, qui étaient les deux grosses vaches à lait de ce département-là, Juste pour rire. Alors, donc, il a quitté à ce moment-là. Ça fait que c'est vraiment des mouvements de gérants qui ont créé les boîtes qu'aujourd'hui on connaît. Et ces boîtes-là étaient déterminantes dans le temps pour le succès d'un humoriste, ils sont moins maintenant. Il faut bien comprendre qu'avec l'avènement d'Internet, puis hier, parmi les gagnants, on a vu, il y a vraiment du monde qui se sont fait connaître, les Arnaud Soli de ce monde, puis les Mathieu Dufour. C'est pas des produits de leurs équipes. C'est pas leur équipe qui leur a donné le break d'être capable d'atteindre du monde. C'est une plateforme qui s'appelle Internet, où est-ce que, à quelque part, t'as pas besoin d'avoir l'autorisation de personne pour embarquer. Alors, jusque-là, il y avait la télé, la radio qui te permettaient d'être connu, là, si on veut. Et puis, depuis quelques années, on le sait, à travers Internet, tu peux réellement, tout à coup, être connu, partir de nulle part. Fait que ça fait que les producteurs sont plus aussi importants dans le développement d'une carrière. Ils sont tout aussi importants pour bien poser, balancer un spectacle. Parce que si tu y vas tout seul de ton bar, François Massicotte l'a fait. Puis, chaque show a diminué en importance puis en intérêt. Je pense, je n'ai pas vu tous ces shows à François, là, mais je pense que ces deux derniers shows qui étaient en autoproduction ont probablement eu, peut-être même les trois derniers, en a fait six, je ne me trompe pas, ont peut-être manqué de cet apport-là, d'avoir un producteur qui connaît ça, tu sais. Parce que pour beaucoup d'humoristes, un producteur, c'est juste un compte en banque, mais c'est une grave erreur. Parce que, de un, il n'y a aucun humoriste d'envergure qui n'a pas une équipe d'envergure, ça n'existe pas. Peut-être que ça existera bientôt, à cause d'Internet, il faut voir, mais sinon, ça n'a jamais existé. Puis, un producteur en a vu d'autres. Il en fait un show, puis un autre, puis un autre. Ça fait que quand, tout à coup, toi, t'arrives, puis que t'embarques dans cette espèce de chaîne de montage-là, bien, tu profites de plein de connaissances. Ça fait que c'est pas tous les producteurs qui ont une bonne tête à contenu, mais ils en ont vu d'autres. Ça fait que, bref, ça, c'est pour le portrait, si tu veux, global. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Stéphane Ferland part sa boîte. Avec, comme je vous dis, Barrett McLeod, je pense. Peut-être un troisième là, que j'oublie, mais Lise Dion. Peut-être Lise Dion. Je pense qu'il est parti les trois. Lise, mais ça, je pense qu'il est parti... Mais t'es pas encore top, là, tu sais. Mais c'était du monde dont le répondant était Stéphane Ferland, chez Pierre Gravel. Puis je crois que c'est les trois avec qui il est parti, me semble. Bref, ça s'est mis à marcher vite. Et rapidement, le plus gros producteur d'humour au Québec est devenu Octan, donc la boîte de Stéphane Ferland. Puis il a amené deux innovations, ce gars-là, vraiment, là, qui a amené pour toute l'industrie. Une qui a fait son temps, après ça, on ne l'a plus vraiment vu, mais on le voit encore à l'occasion, dans le temps des fêtes. La première, c'est le gala des Oliviers. Lui, il s'est dit, la seule affaire qu'il nous représente, c'est le gala de la disque, puis on a un trophée. Dans tout le gala de la disque, il y a un trophée, humoriste de l'année, que gagnait à l'occasion, je me souviens, Daniel Lemire ou autre. Et puis, c'était une excellente constatation, parce que la réalité, c'était que le nombre de billets vendus, OK, les humoristes font pas d'album, mais le nombre de billets vendus en spectacle, je vous niaise même pas, là, c'est à peu près du 10 pour 1. C'est-à-dire, pour un billet de musique, il se vend 10 billets d'humour. Puis ça a toujours été ça, puis c'est encore le cas, là. Fait que j'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est pas du simple au double, c'est pas de 1 à 5. Là. C'est vraiment... Je veux dire, quel chanteur vend 100 000 billets? Alors que des humoristes, vous entendez ça quand même assez régulièrement, des 100, des 200, des 300 000 billets pour Louis-José, Martin Matt, Tanctil, les gros vendeurs, Lise, justement, ça vend plus que 100 000 billets à chaque tournée. Là. Puis 100 000 billets sur 8 millions, c'est pas la fin du monde quand on y pense. Mais c'est très difficile à atteindre. Puis il n'y a aucun chanteur qui se rend là. Évidemment, j'enlève Céline Dion, mais je veux dire, Caïn, là, on s'entend que quand il était en tournée, là, il finissait pas après 2 ans avec 100 000 billets. C'est comme ça, je me l'explique pas comme tel. Les gens, je sais pas, c'est comme ça. Ça fait que Ferland, lui, il s'est dit, on va faire un gala qui s'appelle le gala Les Oliviers, puis on va lancer une organisation qui s'appelle l'Association des professionnels d'industrie de l'humour. Donc, c'est pas un syndicat ou une organisation pour les humoristes, il faut bien comprendre, c'est pour les gens de la business. Et cette organisation-là a lancé le gala Les Oliviers pour récompenser puis faire en sorte qu'on mette sa map vraiment au niveau des récompenses puis de l'industrie, puis etc. Alors, ça a démarré et ça a toujours été, comme tous les galas, ça faut quand même le dire, une énorme source de frustration parce que, par définition, t'es tout le temps plus en nomination que tu gagnes de prix. Puis, il y en a qui sont constamment en nomination puis qui gagnent jamais de prix. Ou qui gagnent jamais les prix qu'ils voudraient gagner, tu sais. Ça fait que ça, c'est tout le temps pareil. Puis là, ben, ce qui arrive, c'est que il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ça, personne n'est au courant de ce que je vais vous dire, mais entre les humoristes du web puis les humoristes, appelons-les standards. C'est-à-dire que les humoristes du web se considèrent des humoristes puis se considèrent dans la gang. Puis hier, ont reçu des trophées, entre autres, comme je vous dis, Mathieu Dufour puis Arnaud Soli. Mais sans vraiment que ça se dévoile, les humoristes standards les aiment pas vraiment. Parce que pour eux autres, faire des pitreries sur Instagram, etc., ça compte pas. Puis vous retrouvez cette dynamique-là dans les podcasts des humoristes. Vous remarquerez qui est invité puis qui n'est pas invité. Puis quand t'es pas invité, c'est parce qu'à quelque part, l'animateur juge que t'es pas dans vraie gang. Ça fait qu'il y a des gangs dans toutes. Ça fait qu'il n'y a pas juste des gangs, la clique du plateau, puis les comédiens, puis les patentes. Il y a des gangs dans tout. C'est comme ça, ça marche de même, c'est humain. C'est de même dans les milieux syndiqués, dans les entreprises. On s'en sort pas, c'est juste comme ça. Ça fait que moi, ben, ayant ben des amis là-dedans, ben, je vois bien qu'à un moment donné, hier, comme d'habitude, là, je parlais à personne depuis, mais qu'il devait avoir ben, ben, ben du monde fru, de dire, bon, ça y est, encore, là, les petits jeunes du web, etc. Mais... c'est la vie, c'est comme ça. Les choses avancent. Tout à coup, t'attires un public qui, eux autres, les très jeunes d'ailleurs, les ados ou autres. Mathieu Dufour, je veux dire, il a marché comme un déchaîné. Il est sur les plateformes où les jeunes se retrouvent. Tu sais, je veux dire, rendu là, il n'y a pas de magie. Puis, ils sont récompensés, je trouve, de très juste titre, parce que si c'était juste les, entre guillemets, puristes qui disaient, bon, ben voici, meilleur texte, meilleur numéro, meilleur spectacle, tu sais... bon, ben il y a toute une faune qui pousse en arrière pendant ce temps-là. Puis bon. Alors ça, c'est pour les coulisses, si vous voulez. L'autre affaire que je voulais dire que Ferland a lancé, c'est les forfaits. Et encore là, ça criait. C'est le premier qui a fait un genre de « achetez-en deux, puis ayez le troisième gratuit ». Il faisait ça, lui, avec des humoristes, littéralement, évidemment avec des billets, là, mais... puis ça, moi, je me souviens, quand il a lancé ça, c'était à grand renfort du Journal de Montréal, les pleines pages, tout. Il y en avait du budget, c'était écœurant, hein. Puis c'était, mettons, acheter un billet soit pour McLeod, Lise Dion ou Dominique et Martin, mais il y en avait un trolley, là, il y en avait 7-8 en vente. Puis là, c'était, le prix, c'était, mettons, 65$ pour 3 billets, 2 billets, puis 99$ pour 3 billets, puis il faisait des forfaits d'artistes, il faisait des packages Amazon d'artistes. C'était le Costco de l'humour, tu sais. Humour dépôt, on aurait pu appeler ça. Puis ça, ben ceux qui n'étaient pas dans cette gang-là, trouvait ça très cheap, trouvait ça bas de gamme, trouvait ça blablabla. Bla bla. Sauf que la réalité, c'est qu'il en vendait l'étiquette. Ça fait que le plus gros vendeur, lui, des fois, il tirait celui qui vendait moins, mais la réalité, c'est que chez Octan, il y en avait. Puis tu finis pas perdant dans ce temps-là parce qu'il faisait des économies d'échelle. À vrai dire, un seul de ces humoristes-là, ce serait pas payé la pleine page pour attirer l'attention de tous les lecteurs ce jour-là. Alors que quand t'es 8 puis que t'as des forfaits où qu'à quelque part l'argent circule, puis je fais une pièce, tu fais 50 cents, c'est mieux que de chacun juste faire 25 cents. C'est que ça, Ferland avait été très, très agressif. Et à un moment donné, il s'est passé de quoi qui reste encore mystérieux aujourd'hui. Cette compagnie-là s'est dissoute, est disparue, parce qu'il y a eu des défections. Antil est parti, Lise Dion est parti, Dominique et Martin sont toutes parties. Ferland a même écrit un livre que j'ai lu, qui était intéressant, mais qui répondait toujours pas clairement, en ce qui me concerne, à cette défection-là. Mais bizarrement, un jour, il y a eu des récriminations à l'interne. Personne n'a dit qu'il avait volé personne. Mais c'était comme si tout le monde était tout à coup très insatisfait. On parlait beaucoup de son ego, mais... alors, ça, je vais mettre un grand bémol, parce que moi, j'ai connu les deux côtés de cette médaille-là. Puis c'est très bizarre, les raisons qui font qu'un artiste est content de son équipe. C'est pas tout le temps les résultats. C'est ça qui est très bizarre, puis qui est très artiste, là, si tu veux. C'est que... un artiste peut ne pas rien reprocher techniquement à son équipe ou à son gérant, mais décider quand même que ça fait plus. Moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que Cavana, à un moment donné, on se parlait moins, il y avait comme un peu un genre de petit conflit de personnalité. Puis un jour, il a fait « OK, ciao, bye, je m'en vais ». Puis je comprenais parce que c'était comme... c'est vrai qu'il y a quelque chose qui était de l'ordre du personnel. On se parlait moins, il y avait... parfait. Antil, par contre, ça roulait de feu de flamme. Puis, il n'était pas capable de me formuler pourquoi il voulait s'en aller. Il était venu avec sa femme. Il était venu en meeting avec sa femme, comme genre son porte-parole, tu sais, moi. Puis, il m'a sorti des affaires du genre, oh, j'ai jamais fait telle émission. Puis, c'était un malaise généralisé, basé aucunement sur ses résultats parce qu'il vendait à côté. Il semblait avoir des sniffs de jalousie de ma relation avec Morancy, qui était plus un chum, mais on était deux célibataires, puis lui, il était marié, puis il vivait sa rive sud. François était au coin de la rue chez nous, tu sais, je veux dire. Mais en tout cas, s'il y en a un qui enviait la carrière de l'autre à ce moment-là, c'était bien plus François qui enviait Jean-Michel, parce qu'il vendait du ticket à la mort, puis François, c'était tough. Puis j'en veux pas à personne, c'est tout du monde, là. François, il restait un chum, mais Jean-Michel, même si on se parle pas, Anthony, c'est le seul de tout le monde que j'ai fréquenté en humour avec qui j'ai plus de contact vraiment, qui a tiré la plug, genre, moi, je veux plus te parler. OK, fine. Mais Jean-Michel, si je le texte là, il va être content. Tu sais, je veux dire, moi, il n'y a aucune... C'est pour ça que je vous parle de ça bien ouvertement. C'est la réalité. Mais ça n'a jamais amené... J'ai jamais été fâché de ça. Ça m'avait affecté beaucoup. Ça m'avait vraiment affecté. Tu sais, c'était comme calvaire. Anthony partait 6 mois après Jean-Michel. Mais je m'étais dit, il y a un signe là-dedans. Tu sais, je veux pas tant que ça faire ce job-là. Puis regardez où est-ce que j'ai abouti. C'est parce que c'était comme la curve dans ma vie. Moi, ça n'a pas été être avocat ou ça n'a pas été... devenir en l'avant-scène, mais la curve, ça a été gérant d'artiste. J'aurais dû tout de suite foncer, moi, en avant, comme je faisais déjà à l'école primaire, secondaire, tu sais. Mais c'était facile pour moi d'être gérant. J'étais bon à rien faire. J'avais tout ce qu'il fallait pour être un gérant d'artiste très facilement. Fait que j'ai comme rentré là-dedans, tu sais. Mais tout ça pour vous dire que c'est très bizarre les raisons pour lesquelles des fois il y a une rupture. Alors, des fois, on entend genre, là, il a volé mon argent, mais c'est rare. L'espèce d'idée que c'est des crosseurs puis des requins, le showbiz, c'est vrai dans les petites ligues, les ligues de bar puis tout, mais dans les grosses ligues, c'est pas ça, là. C'est pas ça pantoute. C'est fait que c'est très bizarre. Tous les gérants vont vous le dire, là, quand tout à coup, ils ont été laissés par des artistes ou qu'ils ont eu des chicanes ou whatever, c'était rarement basé sur des affaires très, mettons, « Ah, montre-moi les chiffres, puis là, ah, tu t'as crossé les chiffres, tu... » C'est rarement ça, c'est une perception, t'es plus content, puis tu sais pas trop, puis c'est ça, c'est de même. Ça fait que donc, c'est ça l'histoire des Oliviers. C'est vraiment l'histoire de Stéphane Ferland, qui est l'histoire d'un gars qui a quitté Pierre Gravel, comme je vous dis, un mouvement de gérant, j'appelle ça de même, qui a lancé le truc, et puis qui finalement, tout le monde s'est mis à dire, puis je le répète, pour des raisons pas super claires, c'est que soit qu'il y a un omerta hallucinant autour de l'histoire de Octan, puis qui ont toutes subi là, une affaire, là, genre, mon Dieu, ça pourrait faire un documentaire, ou qu'au contraire, il y a eu un effet d'entraînement, qu'il y en a un qui a dit « Moi, je suis plus content. » L'autre, « Ouais, moi non plus. Ouais, je l'aime pas trop. » Puis le gars, c'est terminé. J'ai aucune idée, il est rendu où. Si il est wise, il a fait fortune pendant ces années-là parce qu'il faisait... Il me donnait des chiffres. C'était hallucinant, là. Tu sais, c'était vraiment... Il m'avait dit que le X-ième show de Lise Dion, le soir de sa première, il avait donné un chèque de 800 000 à Lise. Ça, il m'a dit ça au restaurant. Alors, vrai, pas vrai, je sais pas, là. Mais que il y avait 100 000 billets de vendus avant la première. Ça, je sais plus si aujourd'hui on voit ça encore, mais... Donc, il y avait 100 000 billets de vendus avant la première à Montréal, parce que quand tu vends ton show puis que t'es connu, mais là, t'avertis tout le monde, Lise Dion est en spectacle, ben là, le gars de Trois-Rivières, le gars de Val-d'Or, tout le monde achète le show. Les autres mettent ça dans des packages, etc. Ça fait que tu peux réellement dire j'ai déjà vendu des billets pour Lise Dion. Puis... Le chèque que Lise aurait reçu, encore là, je peux pas l'affirmer, c'est ce que lui m'a dit. Il avait donné ça en surprise en disant « Attends, Lise, ça, c'est ta part. » Ça veut dire que lui aussi avait fait 800 000 balles. Ça fait que c'est de l'argent de tabarouette, là. Mais faites le calcul. Si tu vends 100 000 billets à 25, 30, 40 piastres, pas long, hein? C'était même pas encore tout ce qui était vendu. C'était probablement un acompte. En tout cas, bref. Parce que ça génère quelques millions, là, un show de... Les gars comme Louis-José, puis Martin Matt, puis tout, ça a passé à la caisse. Ça coûte millions, là. Puis c'est quand il repart un show, ah ouais, ça repart. Bon, tu sais qu'ils ont du cash. C'est mérité. Ils sont bons, là. Moi, je nomme personne là-dedans qui le mérite pas, bien au contraire. Ça fait qu'écoutez, ce matin, c'était ça. C'était un genre de spécial les coulisses des Oliviers. Et puis, si vous avez des trucs à me raconter là-dessus ou autre, n'hésitez pas, comme toujours, ça va me faire plaisir. Salut, bonne journée.